Bonsoir. Peut-être que le mot qui conviendrait le mieux, ce serait Adichat. Merci d'être venu ce soir célébrer un centenaire peu commun, dirons-nous, en tout cas pour la Gascogne et plus largement pour la littérature occitane, celui de Bernard Manciette. Et c'est un vrai centenaire, puisque Bernard Manciette naissait en réalité le 27 septembre 1923. Donc il est difficile de trouver un jour plus indiqué que celui-ci pour célébrer donc ce centenaire. Et il est aussi difficile de trouver une personne plus indiquée que Guy, même s'il ne veut pas que je le dise, pour parler de l'œuvre de Bernard Manciette, parce que, et c'est peu dire, on peut dire qu'il la connaît mieux que bien. Guy Latry, donc, il a été longtemps professeur à l'Université Bordeaux-Montaigne, professeur d'occitan, et il est aujourd'hui professeur honoraire de cette même université. Il a très bien connu Bernard Manciette, et ce soir, il a conçu ce qu'il a appelé un itinéraire dans l'œuvre poétique de Bernard Manciette. C'est donc cet itinéraire que nous allons vous proposer, et puis nous allons vous proposer de le suivre avec nous, à devoir. Donc ce sera bien sûr une lecture bilingue en occitan et en français. Et pour commencer, Guy, peut-être dire quelques mots d'introduction et de présenter aussi peut-être ton lien avec Bernard Manciette.
Oui, mon lien avec Bernard Manciette, c'est 20 ans de travail à l'édition de ses œuvres. Je n'en dirai pas plus. Je vous remercie d'être là. Je m'excuse à l'avance de vous faire subir nos lectures. Nous ne sommes pas des lecteurs professionnels. Donc, ça sera une épreuve pour vous. Ça sera aussi une épreuve pour nous, si ça peut vous consoler.
Alors, on commence cet itinéraire par le commencement, c'est pas mal. Hein ? Et donc, le commencement, ce sont les poèmes de jeunesse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Alors, Cathy, je vais lire une lettre que j'ai reçue le 14 novembre 2002.
Alors donc, je rectifie, ce ne sera pas d'abord les poèmes de jeunesse, d'abord
si,
ce sera la
si,
lettre.
Si, ça sera, si. Oui.
Alors très bien.
Cher ami, à moitié mangé par les rats, j'ai retrouvé l'original du rondel que je vous ai envoyé. Vous choisirez entre la version française et la Gascogne. D'après mes souvenirs, ce texte a été écrit au cours de mes nombreuses maladies vers 1938. Donc il avait 15 ans. À l'époque, le curé de Sabre, effaré par ma pâleur, me nommait Loublancotte. Heureusement, le médecin qui venait me voir chaque soir disait à mon père qu'un haram, une bête pire, on en fera un beau gaillard. Voilà que je parle encore de moi, pardonnez-moi. À bientôt avec mes amitiés. Alors effectivement, ce poème de jeunesse, c'est un poème où il fait allusion à ce qu'on croyait être sa tuberculose. En réalité, ça ne l'était pas, mais c'était très répandu à l'époque. Que carabien you comme nani, puisque ne m'bolem pas en loc, et d'un cas que soulé m'engani, dessus du coste de Mioc.
Il faudra bien que je m'en aille, puisqu'on ne me veut nulle part. Et me perdre dans quelques greniers sur une couette de feuilles de maïs.
Se traquen lune quand you mescani, et quand enten l'humun pioc, que carabien you comme nani, puisque me bolen pas en loc.
On s'éloigne lorsque je tousse, et qu'on entend mes râles dans les poumons. Il faudra bien que je m'en aille, puisqu'on ne me veut nulle part.
Qui meyes prau cum iubani, kauyen me baha l'ubirboc, lune, dehed lune, sous plaie du broc, da blouse scrop, planque ma plani, haut l'ubernat, kau comenani.
Avec ça, pauvre comme Job, qui voudra bien me basculer au loin sur la lande de bruyère et me bien piétiner avec les sabots. Allez, Bernard, il faut y aller.
Alors, oui, c'est Poèmes de jeunesse, il les publie à partir de 1947, notamment dans la revue paloise Réclames. Et le premier s'appelle Alneu, qui a été écrit évidemment Alneu par les éditeurs, mais qui donne ceci. Oniu blanc et d'un œil tumbade, au pur, aridente, au mainade, qui sape son bourrez espousa. D'aquet blu choc d'un segutèchi, tumba balance sus you. Cunèchi se me gauzeres refusa. Tumbe sus you, finote car. Curunem, embrasse me car, tumba balance, emei, emnei. Et la minobi qu'est du pause, puisqu'a ou mens dit chinot sa pause, l'outum floc blanc cum irandier.
Ô neige blanche et tombée d'aujourd'hui, ô pure, souriante, ô jeune fille, qui sait si tu voudrais m'épouser. De ce buisson que je secoue tombe à la volée sur moi, je sais si tu oserais me refuser. Tombe sur moi, chère Finode, couronne-moi, embrasse mon visage, tombe à la volée de plus en plus. Et tu es un instant ma fiancée, puisque sur mes doigts malingres se pose ton bouquet blanc comme fleur d'oranger. Alors nous sommes passés, je crois, avec Alneu, des années 38 aux années 1945.
Et là, donc, il publie un certain nombre de poèmes qui sont vraiment des poèmes de jeunesse, du bonheur d'être jeune.
Oui.
Hein, le bonheur, concrètement, de se baigner une dune dans la Leyre, de ressentir ses premiers émois amoureux, enfin, bon.
Oui.
Et il y aura, évidemment...
On sent aussi déjà quelque chose qui est surprenant dans l'agencement des mots, c'est-à-dire qu'il est parfois dans une chanson on finit facilement les rimes. Chez Bernard, c'est jamais possible. On est toujours surpris de ce qui se passe après une image vient une autre image et c'était surtout celle qu'on n'attendait pas en fait. Et quelque part, j'ai envie de dire que dans ces poèmes de jeunesse, tout était déjà là, la surprise des images. La douleur aussi, et puis c'est vrai cette joie qui malgré tout reste jusque dans les enterrements, mais on en parlera plus tard.
Mais il va y avoir une rupture quand même.
Bien sûr. Alors la rupture, c'est l'Allemagne.
La rupture, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire qu'en 1947, il décroche son diplôme de sciences politiques, section diplomatique, et il se retrouve donc dans l'administration française d'occupation en Allemagne. Et là. Il va découvrir, il connaissait la civilisation allemande, et il va découvrir les ruines allemandes. Et en même temps, un milieu intellectuel très, très vivant, et qui va lui faire découvrir la poésie d'Hölderlin, par exemple. Bon. Et donc, en 1950, toujours dans la revue Réclame, se paraît un texte qui rompt complètement avec ce qui précède, qui s'appelle « L'Ode ». À Notre-Dame de le Pou, ode à Notre-Dame de la peur. Donc à partir de là, il va effectivement écrire des odes, donc des poèmes assez amples, dédiés à une personne ou à une réalité. Et celle-ci est née de la vision d'une statue de la Vierge dans une cathédrale éventrée, qu'il dit avoir écrite en 1947 à Baden-Baden. Ode à Notre-Dame de l'Empou. Cette copse, cette lampe, c'est une pénène à Ousseu. Cette lampe, c'est une pénène dans la cathédrale. Bouhelouben, bouheles lampes.
Cette fois, cette lampe en suspens au ciel. Cette lampe en suspens dans la cathédrale. Souffle le vent, souffle sur les lampes.
Ta grand-peuille mirgaille, comme une bateau le neut. Ta couronne est spausade comme une coutette luzaine. Une lagrime à ta carte trincate.
Ta robe, immense, illuminée comme un bateau la nuit, ta couronne est posée comme un couteau luisant, une larme a tranché ton visage.
Kesber, que te manque un oeil. Kesber, audit coupat qu'as un diamant. Berre comme le torture et berre comme le pou.
Tu es belle, il te manque un œil. Tu es belle. À ton doigt coupé, tu as un diamant. Belle, comme la torture est belle, comme la peur.
dans tous bras que mettrait une trine de perles, une trine d'espourtate d'une leire après le lieu, trins d'une neut, carreraires de l'ulz.
Dans tes bras, je mettrai un train de perles, un train de déporté qui aboie à la lune, train dans la nuit charroyeur de lumière.
Au chignon te mettrai des roses rouilles, tant coupat tous du cesse, percé que te carèves, et l'oustraux hen dus fares ardennes.
Au chignon, je te mettrai deux roses rouges. On t'a coupé tes deux seins parce que tu te taisais, et ces trous font deux fares ardents.
Donc, comme vous voyez, cette vision suscite un flot d'images qui t'évoque toutes les horreurs de la guerre qui vient de se terminer. Et ça va, en fait, se concrétiser, cette expérience allemande, avec un recueil qui s'appelle « Accidents ».
Et qui est salué par à l'époque comme étant quelque chose, comme dirait Jean Boudou, de l'ordre de l'électrochoc.
Ah oui.
Rien ne vaut l'électrochoc, dit-il.
Ah oui, ça fait un sacré choc, effectivement, dans le tout petit lectorat occitan de l'époque. Alors, cet accident est l'évocation d'une course folle à moto à travers les ruines. Alors, c'est le passager qui parle au conducteur. C'est une saison en enfer. Tatium ispas, tadrum ispas, nundesh ispas masumeya. Kelitz? Oh, l'umating est aki, ya. Ben presneyu, keipu, be, yutabe.
Ne somnole pas, ne t'endors pas, empêche-moi de m'assoupir. Quoi? Effectivement, voici déjà le matin, prends garde. Es-tu bien sûr que le matin ne nous a pas repérés? Tu as peur. Rapproche-toi de moi, moi aussi j'ai peur.
Mes soki kauha, kau akha. Cale la mitrailladure. Esprest, en plein en lumatin. Kauha cade toute la scourtille du seu. Kau fout l'aube per terre. Daubes en kau kamei, jamais. Ni de neuts, ni de yuns.
Mais ce qu'il faut faire, il faut le faire. Cale la mitrailleuse. Une bande suffira sans aucun doute, une seule rafale. Prêt ? En plein dans le matin. Il faut abattre tous les rideaux du ciel, il faut jeter l'aube à terre. D'aube, il n'en faut plus jamais, ni de nuit, ni de jour.
Que ça presse, bat grane, souris, est toute blaue, ben blanque, les esquilles des arbres remèchent. Anem, qu'est-ce le moment?
Elle approche, grandit, sourit, elle est toute bleue, elle blanchit. Le dos des arbres frémit. Allons-y, c'est le moment. Tu peux fermer les yeux, je tire.
Biste, espille, une dernière cope, une dernière souris de l'aubette, d'où se dit d'arrose, de grandes trosses de seau cadent l'une après l'autre. L'ouben l'usgare et l'usé esturbaya, mais tout. 16 bounets chadar en une cope.
Vite, un coup d'œil, pour la dernière fois. Le dernier sourire de l'aurore aux doigts de rose. De grands pans de ciel tombent l'un après l'autre. Le vent les saisit et les fait tourbillonner. Mais tout s'écroule d'un coup.
Toque tabidit, poustraux de las ruines, las goules de las riestes. Que beden, mais espiez donc. Digme, so que beden. Que me dit que cadem nous tabé, mon frère, et menaridi de benaurens.
Je te l'avais bien dit. Par les brèches des ruines, les gueuloirs des fenêtres, on voit. Mais regarde donc, dis-le-moi ce qu'on peut voir. Je vois que nous aussi nous tombons, vieux frère, et j'en ris de bonheur.
Alors 1955, c'est à la fois donc cette entrée en fanfare dans la littérature occitane et le retour d'Ulysse dans sa patrie. Et le retour d'Ulysse par un détour par le Brésil, d'ailleurs. et le retour d'Ulysse est assez mélancolique. Hein. Ça s'exprime notamment dans ce qu'il commence à écrire beaucoup à l'époque, c'est-à-dire des sonnets. Notamment le sonnet numéro 1. Rentra sulet de notre terre amare, homme des biens auprès de la marume. Amaremen aima reine idigun, pramouk tout est ombre et ta lutte claire.
Retourner seul en cette terre amère, se savoir homme au prix de l'amertume. Amèrement n'aimer rien ni personne, car tout n'est qu'ombre, et même ta clarté.
Et dans le sonnet 3, sort truffandé, le vit est accabade, leu à meitat. Et ça n'a été l'amour que sommes garés sous l'extrême de l'estrade, amassiran d'incaouyurn de héru.
Ironique destin. Ma vie est achevée à moitié désormais. Mais un amour du soir se prend à moi soudain sur le bord de la route et jusqu'au jour des froids, il va m'accompagner.
Quand tout est mort déjà, quand tout s'esquisse et quand l'ireille ben de s'estrangla, loussé des pluies et des barim saoula.
Quand tout est mort, lorsque déjà tout s'effiloche, et quand on pense mettre un point final, les soirs de pluie, ou bien encore se perdre au hasard.
Ô Bedbintans, quand t'ailles pas comme l'Ulysse, médichanos d'une paix de huec ségu, que maïmitz bous à con ma certitude.
Ô beau 20 ans, quand je n'ai même comme Ulysse en ma propre maison un foyer assuré. Votre amour serait donc toute ma certitude. Alors, ce retour d'Ulysse, c'est un retour avec ses sonnets, mais ces sonnets, tu me disais qu'ils avaient une histoire, ne serait-ce que
oui.
Leur titre.
Alors, c'est ce que vous avez vu dans les dernières strophes, c'est qu'il y a un retour, il y a une tristesse, il y a un retour à la arrivé à l'âge adulte, retour à la normalité, etc. Mais il y a un amour qui nouveau qui naît. Et alors, je suis allé voir les manuscrits donc aux archives départementales. Sonnet, en fait, c'est le troisième choix comme titre. Alors, sonnet, ça veut dire recueil d'exercices de style dans un genre tout à fait suranné. Enfin, bon, le sonnet, on n'en fait plus depuis José María de Heredia, quoi, sauf Jacques Roubaud. En fait, le second choix, c'était âge, c'est-à-dire l'âge mûr, donc cette problématique qu'on a vue. Mais ça n'est que le second. Le premier, celui qui est inscrit et barré sur les 4 cahiers de brouillon, c'est que Taïmi. C'est-à-dire qu'on peut lire aussi ce recueil de sonnets comme un grand poème d'amour avec ses joies et ses douleurs.
Alors vient une trilogie après. Hein. C'est dans les années 1964-1976.
Une trilogie romanesque, alors.
Voilà, ouais. Nous passons à donc au genre romanesque chez Bernard. Mais tu me disais tout à l'heure, puis tu le dis souvent quand tu en parles, pour toi, c'est finalement toujours de la poésie, même si ce n'est plus tout à
c'est-à-dire
fait un
quand
poème.
Quand il écrit de la prose, il reste un poète. Ouais.
Et voilà voilà l'édition, enfin la préface de l'édition de 1995. Voilà ce qu'il dit. Le soir tombe et il pleut. Cette pénombre qui convient à l'examen de conscience. Est-ce celui qui me vaut, après 40 années, de trouver à ce roman négligemment relu un parfum de vague péché, péché de nostalgie et de faiblesse? Ou peut-être ces personnages de crépuscule et de brouillard sont-ils venus là pour expier de leur effacement ma propension exagérée à la vie insolente, aux sons éclatants, aux couleurs brutales? Mais non. Ce soir encore, la brume et la pluie gardent exactement le même goût qu'au barail. Ce livre fut sans doute écrit non avec l'esprit, mais avec la peau. Et la peau ne ment pas.
Bernard Lubat en parlait l'autre jour à Uzest et il disait c'est un livre qui ne se lit pas mais qui se renifle. Tellement il y a d'odeur, il y a de présence. Alors l'histoire, c'est chaque mois de novembre, il y a un jeune homme élégant parlant français qui vient rendre visite à une famille de la vieille bourgeoisie landaise, c'est-à-dire celle d'avant les pins. Et le narrateur, c'est le fils de la famille, qui s'appelle Bernard, qui est malade et qui va mourir à la fin du livre, et qui, sans avoir pu réussir à nous révéler le secret de famille que porte ce jeune homme de novembre.
Et donc, ce premier volet va être suivi quelques années après par deux autres volets. Et ce qui est intéressant dans cette trilogie, c'est que c'est trois voix différentes.
Oui.
Hein. Tu peux en dire quelques mots dès maintenant ?
C'est-à-dire, le premier roman est accueilli à la fois avec enthousiasme et fraîchement aussi, parce que c'est vraiment très pessimiste. Et que dans une littérature qui se veut un peu militante, ça détonne. Donc il fera deux autres romans qui seront plus ancrés dans le siècle et qui finiront de manière plus optimiste.
Mais ce qui est sûr, c'est que la peau ne ment pas, ainsi que lui dit lui-même. C'est un dénominateur commun à ce triptyque, c'est-à-dire que d'une certaine manière, que ce soit dans l'expérimentation de la mort avec la scène des poisons dans l'Ouïad des Novèmes,
oui,
que ce soit la description du machinaire gigantesque, ou que ce soit Denise dans cette rencontre avec ce machinaire, on est dans une déclinaison du corps, d'une certaine manière. Il y a beaucoup de ça. Oui.
C'est-à-dire que le premier narrateur mourant, donc c'est ce machinaire, c'est-à-dire un machinaire, c'est un ouvrier des scieries mobiles dans la forêt, qui va prendre le relais, qui va être le narrateur du second livre. Et Denise, c'est une jeune fille qu'ils ont rencontrée et qui est amoureuse du machinaire, qui va prendre le relais dans le troisième livre. Tu veux qu'on lise des extraits quand
même ? Allez. Donc, l'Ouguyat.
L'Ouguyat, vers la fin. Une des quatre matins de lutte s'agor, quand le calou haïdou ben à l'zumbes, quand le persegues, l'outil si yaounes, viennent transparentes au soleil comme une boucau, et que l'ascar sourise d'esta esclaride, le miemaï que travaillait dehors, des balous acacias du casau, sa car blanquillait du son ouvrage sous yeux, que cousait toute douce, toute béroï, l'espèce sur le bar d'une haute cadeire, que brûlait à qui grand sa ramaille, dessus une nappe d'esténa des aroscopes.
Un de ces matins de lumière en automne, quand la chaleur fait du bien aux épaules, quand les pêchers, les tilleuls jaunes deviennent transparents au soleil comme un bocal et que les visages sourient d'être éclairés, ma mère travaillait dehors, sous les acacias du jardin. Son visage reflétait la blancheur de son ouvrage posé sur ses genoux. Elle le cousait tout doucement, tout joliment, les pieds sur le barreau d'une autre chaise. Elle brodait de grands ramages sur une nappe d'étrennes d'autrefois.
Quand ma propieille, qui dit chou d'abîme sourise, s'abse mon coche, d'oumant matin que débem tous se nana du barail, le barail que se bendut, prépareram le sistesse et le smalas au besp, et après que me prégué de lui amassal au ditau.
Lorsque je m'approchais, elle dit, avec un sourire, tu sais, mon enfant, demain matin, nous devons tous nous en aller du barail. Le barail est vendu. Nous préparons les paniers et les malles cet après-midi. Puis, elle me pria de ramasser son dé.
Alors, cette scène, d'une certaine manière, d'une extrême douceur, est suivie par un texte connu sous le titre La crampe d'Ouspouzon, La chambre des poisons, où Bernard et le machinaire vont jouer au poison, c'est-à-dire à ingérer des poisons jusqu'à ce qu'ils soient obligés de prendre le contre-poison. Donc, une scène de drogue. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que c'est le premier texte que la plupart d'entre nous ont lu, parce qu'il était dans les textes pour le baccalauréat. Par quel miracle, je ne sais pas. Enfin, il tranchait sur les autres. On lirait.
Donc on passe à un extrait de Le Pluie.
De La Pluie. Alors La Pluie, c'est un roman. Alors tout ça se trouve aujourd'hui dans un recueil qui est simplement sobrement intitulé Roman dans un volume. La Pluie, c'est un peu plus animé parce que ça évoque les trafics d'armes autour de la guerre d'Espagne, dans la forêt, entre les pro-franquistes et les républicains. Et donc, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de... Mais il y a aussi l'évocation de la pluie qui est tout à fait étonnante. La riba de l'Ambra des de Cunach est d'abord une brunis de ben, d'une direction pausades, puis d'un loupé ou lit du brumeil, une fruine, une tic cloque, comme l'esclope d'une des anates sur la garbaille, et une arras claire de brans.
L'arrivée de l'averse est reconnaissable. Elle se fait une rumeur de vent dans des directions opposées. Puis, dans le crissement de la brume, un froissement un peu sourd, comme le sabot d'un mâle en poing sur les aiguilles de pin, et un raclement de branches.
La bête, l'une à l'âne, le bédès arriba, blanc, clair, et la recèbe qu'on grave sur le couille de la veste, et le strouille, l'ouvresse de la haute part de la coupe, urne et la yarten, et l'âme tout autour. Comme si toute herbe par minute qui casse les platanes benteillats, de fanègues de buts de frescous et après de rails, et se sentent d'incalamnes, blasits et simplificats, et savent que tout jamais tournera.
Alors, loin sur la lande, vous la voyez arriver, blanche, claire, et on la reçoit comme des cailloux sur le cuir de la veste et les pantalons. Les ouvriers de l'autre côté de la coupe jurent et l'insultent. Et nous l'avons autour de nous comme si tout n'était devenu que chênes et platanes secoués par le vent, avec à foison des voix fraîches puis glacées. Et l'on se sent jusqu'à l'âme pâle et simplifiée. Et l'on sait qu'elle reviendra toujours.
Dans le troisième volet, donc, Denise, amoureuse du Maquinaire, jusqu'à ce que le Maquinaire s'en aille définitivement en Espagne, hein, se battre. Sem baditare, axaventut, sem espiats, d'amourem proche et proche, crouchit dans les aringades, le stuf neug comme le terre. Aut en leu que me vedouille le dilut haut, l'estiu blanc comme peuille de carbon, et a que tremula liouillé, pur, blasit, à ras de terre, mais huignaï le cap dans loulou de le proube, dans le mousse blanquillaire, d'où se semblait sous nos loups, à la de notre cause.
Nous ne nous sommes rien dit. Nous savions tout. Nous nous sommes regardés. Nous restâmes l'un près de l'autre, recroquevillés dans les racines, les touffes noires comme la terre. Dès que je vis la lumière haute, l'été blanc comme une robe de braise, et ce léger tremblement pur, pâle, à ras de terre, j'enfonçais ma cape dans l'odeur de la poussière, dans la mousse blanchâtre dont l'odeur ressemblait à celle de notre corps.
Minia lu sable, esta terre, meikerus mort, lucé ou c'est l'usignable doucement, comme une nabio de ma, s'estadibe tout une de nos déchats, et à la vête que dit inouï cap, humoumen, embête sourise. Et ma revirei, mon coq marchable sur le terre, est une terre et sable, des hessins qui caben comme aradits, tursus comme luxarius de le soukes, muscrats et henurfits.
Manger du sable, devenir terre, plus que les morts. Le ciel s'éloignait lentement comme un bateau de mer. Il s'épuisait pourtant à nous laisser. Alors, je lui tins tête un instant, en souriant. Et je me retournais. Mon cœur marchait sur la terre. Nous fûmes terre et sable. Nous nous enfoncions comme des racines, tordues comme les entrelacs des souches, mêlées et devenues plus forts. Alors ces trois voix sont, et ces trois extraits que tu as choisis sont, se répondent dans la mesure où finalement ces trois états du corps, hein, l'état de l'enfance.
Et le troisième, c'est une étreinte.
Et les, bien sûr. Le deuxième, c'est le corps qui se bat contre la pluie. Et le troisième, c'est l'étreinte. Et c'est la voix de la femme, bien sûr, Denise, qui raconte cette étreinte. Alors, vous le voyez, il est là devant nous. L'enterrement à sabre et le volet qui suit. Nous sommes entre... C'est un long volet, c'est une épopée dans tous les sens du terme. C'est quelque chose d'unique, d'une certaine manière, pour la littérature occitane moderne, dans tous les cas. Et peut-être que tu peux parler de oui. ces différentes étapes, de la publication des extraits.
D'abord, je relèverai une petite ironie du sort, c'est qu'en 1963, toute la France pleure en chantant « Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, maman bon. ». Or, c'est précisément à ce moment-là, depuis 1960, que Bernard Mansiette écrit son enterrement auquel il mettra le point final en 1977.
Finalement, tout est résumé dans ce que tu as
entre-temps, dit. Entre-temps, il a publié des extraits qui ont fait sensation donc, en 69, puis dans la revue La Barbacane, à Montflanquin, et en 1989, là, nous sommes... réunis un certain nombre d'amateurs landais pour créer une maison d'édition, essentiellement pour éditer ce qui n'existait que sous forme de morceaux. Et donc ça a donné cet enterrement. Première édition, donc l'édition Ultreia. Ensuite, donc, il y a eu en 1996, Ultreia étant morte d'épuisement, une bienheureuse reprise du texte par les éditions Mola, que vous avez là. Et ensuite, en 2010, la collection Poésie Gallimard l'a fait rentrer dans... Comment dire ? C'est le seul texte en langue régionale qui est dans cette collection. Sauf celui de Pasolini, qui est les poèmes friulants. Hein, mais c'est un bon voisinage. Oui. Alors cet enterrement, si vous aimez un peu la peinture, c'est à la fois l'enterrement à Ronan et l'enterrement du comte d'Orgaz. L'enterrement à Ronan, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est vraiment l'horizontalité, c'est les gens attachés à la terre, hein, il n'y a pas de ciel. Ou plus exactement, il y a une bande de ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Et toute la communauté là, est agglutinée autour d'un trou. Hein. Et puis l'enterrement du comte d'Orgaz, au contraire, c'est un tableau en forme de bombe ou d'obus hein, qui aspire en fait les gens vers le ciel. Alors, un ciel qui est plein comme un tram à 6 heures du soir, c'est-à-dire il y a Jésus, Marie, les anges, les bienheureux.
Ils sont venus, ils sont tous.
Et Saint Jean-Baptiste qui présente à Marie l'âme du comte d'Orgaz. Donc c'est les deux à la fois, et c'est-à-dire une vraie épopée, à savoir qu'il y a deux niveaux, le niveau de la terre. Hein. Alors avec, il a ceci de commun avec Courbet, que Courbet dans son tableau peint les vrais villageois de Dornan, y compris sa famille d'ailleurs. Et Mansiette aussi cite dans son texte des gens qui sont effectivement. Et effectivement, les Sabrots de cette époque, qui est l'entre-deux-guerres. Mais en même temps, ces personnages communiquent avec Dieu. Hein. Alors, ça commence donc par la levée du corps,
oui,
de la Daune. Alors, la Daune, voilà, oui. Mansiette a traduit ça par la Daune, c'est-à-dire qu'il n'a pas traduit. Hein. La Daune, c'est à la fois la propriétaire, bon... mais aussi une sorte de matriarche, une sorte de reine hein, qu'on enterre avec, on va voir, un requiem. Ur, dun, ur, anam nug hort, de dare suspes. Le daun nost qu'est morte, qui met tout pour pause. Adar qui aime, et que cela porte à l'enawan. Tres guerres, quand de masques pélites, sabé 8, 14 et de zéweit. Digue d'angade, pose pas la stesse bignures.
Celle qui n'avançait que derrière ses pas, la dure, sombre et enfin morte notre donne. L'affaire est bien conclue. On l'emporte. Elle a vu trois guerres et tout plein de mal gaspillés. Parlez-en. La guerre de 14. est le Kaot, ne pèse pas ses 60.
Le mort Shendare sous cap, le route Kesbumbad, qu'erreur donc perheit, puisque tout le dimaigne, qu'entenou le cariot de menudé, d'ablébière, l'outamba, qu'erre preste d'ablascaus naues, débat.
S'en va la vieille donne, la route bombée, or elle était parfaite, et surtout le dimanche, elle entendit venir la bière et la brouette à grands coups de tambour, elle se tenait prête.
Le porte du enterrements, le grand porte du miei, sobre sous os. Le menudé, le quacote et le lariboua, que pensas donc, 13 000 livres d'os, et un cuir, c'est du cargue. À questes os, d'un nous esbrigaïes, que te tresmautin, Seigneur mon Dieu.
La porte sombre s'est ouverte à deux battants. À deux battants, la porte des eaux s'est ouverte. Menuisier maquignon et l'emmène, un poids d'eau jugé 60 ou 70 livres d'eau. D'os, mon Dieu, ces eaux brisées qui te tressaillent.
Ils sont venus, sont toutes minutes, les sabres, les torts, les squares, les curans, les anautos, les de là, les lagues, les poursuguers, se porteront les pandequates quand ils tournent. Les de Peitiou, mais il y en a un, les vieilles à paix. Les d'un sehen, hocs, les d'un sehen, caïdes, aimés, les brins, et le tout du gaz quand ils tournent.
Sont tous venus, boiteux, et pauvres et avares et automobilistes, ceux qui vivent là-bas, bien après les lagunes. Ah, ne pas oublier de ramener un pain de 4 livres. Ceux de Peitik, plus loin, celles qui vont à pied, on les appelle Ok, on les appelle Kair ou Brun. La bouteille de gaz au retour.
Le Ziemes Kanenkarit, la campagne que sont Holes de Stalunges. Le Maria d'Upenaï, que la strangue, qu'a trop pinta taurom, le camp de Cassagne, le signaule, qui est une douce auraille qui bat per tous les os, down d'un débat, os et peires que te portent à la misse.
La résine a haussé de court les cloches au ralenti, à la folie ralentie. C'est la sonneuse encore, elle a trop bu de rhum. Le chien hurle les cloches, il fait un doux orage par le peuple des eaux. Donne de dessous terre, la terre et toutes tes eaux t'emportent à la messe.
Alors vous avez remarqué qu'il ne s'agit pas d'une traduction, c'est lui qui l'a faite, c'est une adaptation. Et on se demande si c'est le même texte. En réalité, c'est bien le même texte, et même les deux textes se complètent. Hein, c'est-à-dire que quand il y a la Maria d'Upenaï d'un côté, il y a la sonneuse de l'autre. Quand il y a un peu plus loin, oui, l'Ariouac, là, c'est le, oui, pardon, un peu plus haut, l'Ariouac, c'est le maquignon. Voyez. C'est-à-dire qu'en fait, la traduction en français vous incite à regarder le texte occitan, ce qui est de bonne guerre.
En cela, il fait un peu comme Frédéric Mistral.
Absolument, absolument. Donc, cet enterrement, donc, je l'ai dit, est situé dans le temps. Hein, c'est l'après-guerre de 14, on l'a dit. Et au fil des pages, il y a plusieurs voix, en fait, qui se mêlent. C'est un texte très polyphonique. Il y a le narrateur, mais il y a aussi, surtout, un « nous hein, » qui est la parole du peuple de Sabre. Et ce peuple se perçoit comme dépossédé de sa terre. Il implore la pitié de Dieu, et en même temps, il lui demande des comptes, elle aussi, d'ailleurs, parce qu'il l'accuse d'être absent, d'être sourd, de se taire, de se cacher. Alors, à la vue de la daune, Dieu se résout à répondre.
Et que t'ai-je fait ?
Attends, c'est à moi, excuse-moi.
Ben oui.
Et ce que t'ai fait, saudit le mon peuple. Quand nous beit à tau dans le nostre mounac, nous sparsols blus de l'âne est à casse d'arrêt la skie. Dans notre mort, nous a eu quatre de toute pluie à ouan. Notre mounac, que vous meille, le nostre down, le nostre truc. Et que nous chioulen, notre vieille baroque de dusiste, que nous séguissent d'un bête poussa l'ouélo, Intanusai pietat alalan.
Et que t'ai-je fait ? Dit-il au mon peuple. Quand il nous voit portant notre mannequin avec nos parapluies bleus en bandoulière, avec nos morts rappelés du fond de toutes les pluies, notre mannequin, notre pauvre donne titube, elle, notre sonnaille grave, et nos vieilles femmes contrefaites sifflent entre deux doigts, nos vieilles qui nous suivent en poussant leur vélo, afin qu'ils nous prennent en pitié sur la lande.
Alors cet enterrement est un requiem, c'est-à-dire qu'il reprend en fait, en le mélangeant un petit peu, en les déplaçant, hein, toutes les phases de la grande messe des morts catholiques. Hein. Mais c'est un requiem légèrement subverti, on ne peut pas en entendre moins. D'abord, il ajoute des choses, par exemple, il ajoute des sept paroles du Christ, sauf que ce n'est pas le Christ qui les prononce, mais la vieille. Le Sanctus, qui est censé être une acclamation, hein, est une longue déploration. Hein. Il dit « Je vous acclame par mes larmes ». Enfin, c'est le peuple qui demande d'être sauvé, c'est la vieille, mais finalement, c'est Dieu lui-même qui a besoin d'être sauvé. « As down, zesta saubat ». Ce requiem, donc, est celui d'une reine d'un pays de la civilisation paysanne traditionnelle, mais aussi d'un siècle de fer. Le lan plagne à la butz, de butz simple, de morte, de butz de sable. D'aquets morts tout zaki, d'aquets tuats chen campane, ni suis alinat, à queste niu, hol lentement et lentement, le zarod douce brosse, de longues louscrums, et comme roses blanches de Daré, qui s'épellissent d'un douce lune et s'azoument ses longues à perpète. Nous morts ces platuchats que rase nous essaie, la blue seigle noste d'un se car chen d'acab. Le lane lune, mais lune, cop sec que s'estanque, à bête copse, que sa longue apresse, et n'a de cante triste. Temps de mort, à que seigle d'un s'acab passe. Luca Upa Benedit d'abandon sunk.
La lande s'est mise alors à gémir d'une voix simple de mort, d'une voix de sable. Tous ces morts, ces tués, sans glas ni suaire, toute cette neige. Très lente et très lente, les roues des chariots le long des nuages, et ensuite, comme des roues blanches encore, on ensevelit dans les lointains, et leurs ombres s'étirent à n'en plus finir. Les morts écrasés à plat longent le soir, avec notre siècle qui se tait à n'en plus finir. La lande très au loin s'arrête brusquement, parfois, et se rallonge ensuite, et par un chant de deuil. Tant de morts, ce siècle qui n'en finit pas, il ne faut pas le bénir, sauf d'abandon.
On a vu donc d'un détail tout à fait prosaïque, on peut passer tout d'un coup à une vision mystique. C'est le cas dans la partie 15, là, les pleureuses, dont j'ai demandé à la librairie Mola de nous passer un extrait d'un entretien qu'on avait fait lors de la sortie de ce livre en 1996 et que M. Mola a bien voulu nous envoyer, s'il vous plaît. Donc vous allez entendre la voix de Bernard Manciel, ça sera mieux.
Le tailleur, c'est un passant à l'ouvrage de l'autoping souhouac. Et là, ouvre, capa le chou, le grand cassi, deux anciens, c'est dos cops, le cassi blanc, les glans qui cavent sont les malastres. Le cassi d'arbre tourrade, quasi rose, gêne de sable, comme le salut que nous arrive dessus. Le cassi, tout lingues, vingtaine de Pentecôte, es brazoucade le loco, le cassi noste, lingue de tambas de soneil des moudrats, à que soneil, los peuples, cassi de salut abranat, un Abraham de sauce. De l'escarcaillade ride, et ô mes vieilles, et ô miens, la vieille, qu'est-ce à qui, pintrade sur œil de colère, nous arrives, nous sommes aux peuples.
On était arrivés
au tournant de la forge. La femme du tailleur alla surveiller en passant sa marmite. Et l'arbre apparut. Le grand chêne, le chêne de nos pères, le grand chêne blanc. Les glands qui en tombent sont des maléfices. L'aube de gel presque rose. Jean de Sabre, le salut nous arrive. Le chêne tout en langue, tempête de la Pentecôte, activé comme un foyer de locaux. Le chêne, notre langue de tambour, de rêves immodérés, ces rêves que sont les peuples. Chêne embrasé de salut, chêne Abraham de soleil, du grand rire l'arbre, et au milieu, l'antique femme, pentade de soleil, de colère, des rires que sont les peuples.
Merci. Et alors ?
Pour finir, on va remonter un peu dans l'épopée. Et on va, pour finir avec l'enterrement à Sabre, on va lire un extrait des extraits du chant qui s'appelle « La langue dite à la langue ».
Du chant qui s'appelle « L'élévation », c'est-à-dire ouais. C'est le centre de la messe, c'est aux deux tiers donc, du texte. En gascon, ça se dit « l'oudi ou bedeux », c'est-à-dire le « voir Dieu ». Or, en fait, de voir Dieu, voilà ce qu'on entend. Le langue, que dit ça le langue ? C'est la langue qui parle à la langue. Qu'est-ce bien, Yohamne, et peuple Yuan ? Qu'est-ce du galoupa, il répète tout le pays ? Et que te baou gaha, d'abloupuny le langue ? Aoussur fur tunko ? Que baou anakuye le sou, dans un trac de brume ? Et tira le noeil du sou ? Que basse par là, te baou s'égouti le coudon, et le code de tunko ? Qu'est-ce qui comme un bac dans le soustrail ? Qu'est-ce qui comme une bachette de work à la scouse de débat ? Qu'est-ce qui que disent une vieille auto ?
La langue dite à la langue. Tu es vieille femme et jeune le peuple. Tu es à courir tout le pays avec le poing. Je vais te prendre la langue au sulfure, le cœur. Je vais aller chercher le soleil dans son trou de brume, retirer la nuit du soleil. Tu vas parler, je vais te secouer. Toi et la nuque de ton cœur. Tu es là comme une vache dans sa litière, comme une bassine de braise dans les choses d'en bas. Tu ressembles à une vieille automobile.
Puisque te caras, yo que te bau crida ou benzals, cos que te bau brama, l'air bois del nousos et l'oubiande, pihure et ahugran et cornemen.
Puisque tu ne parles pas, je vais te crier à tout vent, toutes ailes. Je vais, langue morte, te bramer. Vocifération dans les eaux et les chairs, porte-voix et grand appel et cornes de brume.
Liri escumbirat, te bautira de le caudeir. Esburenta de vive, et vive esplumachade. Sebam bregna, daya et taya. Carmentader du saunei tirade. Ça te m'a aussi comme battu à l'esquille. Arbitre, garbiteras.
Lisse, ébouriffée, je vais te retirer du chaudron, ébouillant et vif, plumé vivant, et nous allons nous vendanger, nous entailler, nous saigner, chair véritable retirée du songe. Je vais te charger sur le dos comme une batteuse. Je vais te faire voir si tu ressusciteras.
Voilà. Donc c'est une espèce de manifeste pour, au fond, ressusciter sa langue, ou en tout cas, lui donner une énergie nouvelle. Et effectivement, là, il atteint son but avec une œuvre qui est tout à fait unique. Enfin, on peut trouver des équivalents, le canto général de Neruda, le requiem d'Anna Akhmatova, mais... Comment dire, si on compare encore fait une comparaison avec la peinture, si un jour on oublie toutes les œuvres que Picasso a semées comme des cailloux au bord du chemin, il restera une pierre au milieu qui s'appelle Guernica. Ça, on ne peut pas la contourner. Bon, ben là, les Guernica de Manciès, c'est l'enterrement à Sabre, effectivement.
Mais cela dit, comme tu le disais dans l'introduction de l'entretien que tu évoquais tout à l'heure, cet entretien, il a eu lieu donc à la librairie Mola il y a 27 ans. Et donc, tu disais que, assez justement, que même après cet enterrement-là, il y a une vie. Donc, comme il y a une vie après l'enterrement, On va évoquer encore deux volets de la création de Bernard, dont le volet théâtre, sur lequel tu vas dire quelques mots.
Oui, parce que là, comme vous avez compris, vu le temps dont nous disposons, nous avons fait des coupes sombres dans l'œuvre de Mansiette, qui est gigantesque, qui est... Il y a des essais historiques, il y a le triangle des Landes, le golfe de Gascogne, il y a toute une série de poèmes parus, notamment à l'Escampette, il y en a 20, je crois, qui sont tous magnifiques. Et il y a ses prestations sur scène avec Bernard Lubat, qui sont connues, et les textes qu'il a écrits pour ses prestations. Et j'ai assisté une fois à la commande. Bernard, tu peux me faire un texte sur la marchandisation du monde? Et puis quoi encore? Et c'est pour quand? C'est pour le festival. Et c'est quand? C'est dans 15 jours. Voilà. Et ça a donné un texte qui s'appelle Lousahas, qui est absolument savoureux. Alors, il a fait aussi beaucoup de théâtre avec le regretté Gilbert Thibergen. Il a commencé donc en 87 avec un Perelillo. Alors, j'aimerais parler de Perelillo parce que c'est, à mon avis, le plus beau texte sur la corrida. Vous allez me dire Garcia Lorca, je répète, c'est le plus beau texte jamais écrit sur la corrida, sans aucun pittoresque. C'est un face-à-face entre un enfant et un taureau qui s'échangent leur rôle, et c'est absolument magnifique, sous le regard de Torero Mort. Il a après choisi, Gilbert Thibergen, de faire des mises en scène extrêmement dépouillé. Ça a commencé par Un hiver et ça a continué avec quelque chose d'assez extraordinaire qui est une trilogie bordelaise mythologique. C'est-à-dire qu'il lui a commandé donc Mansiette a fait une Iphigénie en tauride, mais qui la tauride, c'est la gare Saint-Jean. Donc elle attend ici non pas les naufragés, mais elle voit passer des trains de républicains espagnols, de juifs déportés, etc. Un Orphée, où Orphée retrouve Eurydice dans un supermarché, d'où elle ne veut pas partir. Et Ulysse, qui se passe, évidemment, dans l'estuaire. Et c'est là qu'il... et la porte de l'enfer, c'est Bordeaux. Je vous recommande particulièrement un de ses derniers textes paru... après sa mort, qui s'appelle L'Omate, qui a été magnifiquement monté par la compagnie Thibergen, qui va être repris au mois d'octobre au lieu sans nom, rue de l'Escure. Et c'est vraiment, allez voir ça. C'est une merveille visuelle et sonore. Donc, on saute par-dessus. J'aurais aimé lire des extraits d'Iphigénie en particulier, qui est une merveille.
Et on termine par un autre genre, celui des nouvelles, avec Casaus perdut.
Et c'est son dernier texte publié de son vivant, et il y tenait absolument. C'est un recueil de nouvelles qui ont paru à partir de 1980 dans des revues occitanes, et qu'il présentait de manière, avec une fausse modestie évidente, comme des dictées pour les élèves. Hein. Et il avait appelé ça dictat, d'ailleurs. En réalité, j'ai retrouvé des plans de recueil, de recueil de ces nouvelles. Et c'est une merveille. C'est en deux tomes. Le premier tome, c'est vraiment son enfance, la vie à Sabre, puis quelques plongées vers le Paris et de sa vie étudiante. Le deuxième tome, qui s'appelle « Les murmures du mal » ou « Matmus du mal », qui est plus amer, plus acide sur les rapports entre les gens, les questions de bornage, entre les hommes et les femmes, etc. Mais c'est tout à fait... Et alors, quand il écrit de la prose, je l'ai déjà dit, je le répète, il écrit en poète, quoi.
Et pour vous donner un aperçu de l'atmosphère de ces nouvelles, on en avait sélectionné bien plus, mais on a finalement résolu de vous en lire deux, Les temps sauvages,
oui,
et on finira par Le Casau et Lou Casau, et on vous expliquera pourquoi.
Los temps sauvages, nug a contrajun, de long de los herses estiglantes, le best a l'humbe et les culottes arregussades, Ganeuen, Sauvages, que se rendent à tao tout en allemand, ou permet des mailles, d'un plus loup de le seigle, de le lane, du temps. Noir, à contre-jour, le long des vagues étincelantes, la veste à l'épaule et les pantalons retroussés, ils allaient, sauvages. Ils se rendaient tous à la mer, le 1er mai, du fond de la forêt, de la lande, du temps, comme les oiseaux s'en vont à l'automne. Ceux de Ninotte arrivaient eux aussi à Mimizan sur la baladeuse par les chemins tapissés d'aiguilles de pin. Le vieux de Ninotte tenait les rênes, avec à ses côtés sur la chaise, droite comme les femmes d'Attila, l'antique servante, au milieu des pots de confit, des râteaux et des pelles pour la plage, attachés droit. Le fils suivait, en voiture de course rouge. Et moi, très jeune encore, le muletier qui portait les briques et le ciment, son père était constructeur enfin, de maison, m'emmenait sur son chariot jusqu'à l'extrémité de la route. Là, on venait me chercher, et il fallait franchir le sable aride du désert pour atteindre l'éternité des vagues luisantes. Mais sur la plage régnait une étrange atmosphère de Trouville, tentes bariolées, parasols éparpillés par milliers, chapeaux de paille en crêpe de Chine doublés de tulle, panama et canotier, maillot noir et pantalon rouge. Le beau monde et la haute société nous volaient notre fête. J'ai su ainsi que notre fête est un pays. Jadis, le beau temps était un pré à faucher un carré de soleil sur les carreaux de la maison à 8h30. Mais le beau temps est un pays. Des vagues brusques et effrayantes étourdissaient de lumière notre assemblée, et d'autres écumes venaient danser, se détacher bien haut, par bouquets, derrière les nouvelles lignes blanches. Elles se brisaient en vagues majestueuses. Un dimanche, on apprit le pacte germano-russe, et Paris soir recouvrit toute chose comme une nuée de son obscurité photographique. Nous partîmes au matin. J'emportais avec moi, dans la gerbe d'étincelles du soleil sur l'eau, une poignée de sable. Les ombrelles, la verte et l'aubergine, des femmes, elles sont mortes maintenant, attendent encore au coin de l'armoire. Les murmures de notre monde sauvage ne passeront plus jamais à contre-jour de la mer. Longtemps, l'absence du fracas de la mer, la nuit, me réveillerait. Pause, l'absence du trône de la ma, le neut, me déchuderait.
On va terminer par Lukasau, mais c'est un jardin bien particulier. Tu nous en dis un mot?
Le Migramai à Lukasau, c'est-à-dire qu'on revient à la grand-mère qu'on a enterrée tout à l'heure, la grand-mère de Sabre, qui est ici, dans son jardin. Le Lukasau, vous savez, c'est très spécial. Ça a quelque chose avec la case. C'est le petit bout de jardin qui est collé à la maison, hein, qui fait partie quasiment de la maison. Et qui existe toujours, d'ailleurs, à Sabre.
Tu commences.
Le Migramai, Lukasau.
Ma grand-mère était un jardin. Bien avant l'aube, elle glissait comme un lézard d'un arbre à l'autre. Disparaissait entre les feuilles des artichauts, ramassait les fraises des quatre saisons dans son tablier, ou les poires gonflées de fraîcheur, redressait les pieds de tomates, se noyait dans l'odeur âpre des feuilles de chrysanthème et dans la légère brume qui débordait de notre ruisseau. Elle se risquait même à troubler les clartés immobiles du jardin quand la crue, parfois, l'avait recouvert jusqu'à deux pas de la maison, et quand les choux et les pivoines s'élargissaient dans leurs refrains. Elle avait un faible pour les rosiers, quels qu'ils fussent, les hauts, les souffreteux, et ce rosier de sa fenêtre qui fleurissait encore après Noël, et l'autre aussi, le violet, qui se souvenait du temps d'avant les roses roses. Le monde d'avant la clarté du jour, je le devinais au présent que m'apportait ma grand-mère quand je me réveillais. Le premier raisin noir, une tige de digital ou de mauve, un oiseau tombé du nid et que je devrais réchauffer, une plume fugace. Un matin d'hiver, elle m'apporta en riant une aiguille de glace qu'elle avait cueillie au bord du puits. Le jardin grouillait de toute une troupe de rats. Ils traversaient la rivière, farfouillaient à qui mieux dans les treilles sucrées, d'escargots, que nous cherchions la nuit à la bougie, de courtilières qui s'échappaient quand nous déterrions des pommes de terre et de papillons figés de froid. Des bohémiens affamés s'étaient enfermés une nuit dans le poulailler dont le loquet parfois retombe tout seul. Tout n'était que vie. Tout avait l'odeur du vivant dans le jardin du monde. Ce monde où je ne me lasse pas de me promener après le lever du soleil. Ma grand-mère, c'est sûr, connaissait par cœur la Passion selon Saint Jean et aussi une traduction en vers de l'épisode où Hector dit adieu à Andromaque. Mais je le jure, elle ne savait rien de Shakespeare ni de ce Hamlet qu'elle aurait qualifié de grand nigaud. Et je sais aussi qu'elle n'avait pas rêvé quand elle avait vraiment vu dans les rames des petits pois et des haricots plats, au plus fort de la lumière, lui apparaître ceux qu'elle appelait les morts. « Ils sont restés, me dit-elle en secret, un grand moment debout devant moi. Ils voulaient m'expliquer quelque chose. Je les reconnaissais, mais je n'ai jamais pu comprendre ce qu'ils voulaient. Peut-être des messes ?» Elle ne me répondit pas. Peut-être tout bonnement, se promener avec elle au jardin.
Que Sundar Mungras, samedi chouette secrète, Hubert Pause, qui y a d'avant nous. Mais Moulin expliqua qu'au carré, nous habitons, n'ayons pas jamais pu comprendre ce que Moulin. Beléo, Miss, me respondu pas. Beléo, tout bon men, c'est passé y a d'abord au casau.
Merci.
Merci.